Chapitre 64. La barbe tombait, frisottante, d'un noir de jais et épaisse comme une cascade fougueuse, si bien que le trait de la bouche se révélait imprécis. Le visage était de contour plutôt carré en haut, mais allongé en bas, avait décrit le patron de la serrurerie Flamin au portraitiste de l'identité judiciaire. Pour les yeux, le dessinateur avait cherché parmi des centaines de jeux de bandes découpées dans de véritables photographies, mais les lunettes à grosse monture rectangulaire en acétate gris ou marron, que portait David Merlin, avait rendu le témoin hésitant. « Ils étaient presque noirs, ou même carrément noirs, et un peu enfoncés, je crois. Relativement ronds. Je ne sais plus trop. Un regard fuyant, il ne vous parlait jamais en face. Vous pouvez retranscrire ça, cette espèce de timidité ?» Concernant le front, il ne s'était pas prononcé. Une casquette à la visière fort courbée le dissimulait en permanence. « Et les cheveux ?» Court et châtain ou noir, mais je ne pourrais pas vous dire s'il en avait beaucoup ou pas. Par contre, j'ai remarqué une fois qu'il avait de gros sourcils, noirs aussi, et droits comme des poutres. La forme des oreilles demeurait flottante, à l'image de la mémoire défaillante de Flamin, qui avait affirmé n'avoir pas prêté attention à cette partie du corps de son employé. Quant au teint que le professionnel de Ligy avait caractérisé en coloriant avec plus ou moins d'insistance, il était normal, plutôt foncé. Il n'avait pas le souvenir de marques particulières, cicatrices, grains de beauté. Des photocopies du portrait robot ainsi établi de David Merlin circulaient désormais de main en main dans le bureau 514, et ils ne faisaient pas sauter de joie les policiers. D'ordinaire, on considérait déjà ce genre de document peu efficace. Il ne permettait même pas de résoudre 5% des affaires criminelles. Alors là, où David Merlin se planquait-il à présent? Sous quelle identité? Sa véritable, ou avait-il opéré une nouvelle mue? L'ambiance n'était pas exceptionnelle dans l'équipe. Après l'euphorie des derniers jours, ce lundi matin ressemblait à une douche glacée. Einstein était enfermé dans le Zoom, mais les relèves s'arrêteraient là. Grâce aux tractations de Santucci auprès de la direction, la surveillance allait être dédiée à plein temps à un autre groupe. À cet instant même, le Corse se démenait d'ailleurs en réunion hebdomadaire avec les grands pontes pour tenter d'expliquer l'incompréhensible. Florence, quant à elle, restait collée à son téléphone. On avait bien reçu leur requête dans les locaux du Conseil de l'Ordre des médecins du Finistère, et on la traiterait bientôt. Mais il était contraire au protocole de fournir ces informations de vive voix. Il fallait donc attendre un courrier signé par le président du conseil, actuellement en congé. C'est une urgence, bon sang! La vie d'un homme est en jeu! On n'a plus besoin d'une liste complète, juste du nom d'un pédiatre! Ce n'est pas compliqué, si? Son interlocuteur prit son numéro de ligne directe, les données nécessaires, pédiatre, hôpital Meurin, milieu des années 60, service urologie, André Escrémieux, et lui annonça qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire. Mon cul! S'écria-t-elle après avoir raccroché. « Tu vas plutôt courir te gaver de champagne et de foie gras. Étouffe-toi avec, connard !» Serge et Charcot levèrent un sourcil. Leur coéquipière se jeta sur le réfrigérateur et ouvrit un pot de fromage blanc, qu'elle dévora à la petite cuillère après avoir ajouté des pelletées de sucre. Ces types la rendaient folle. Elle revint à son bureau avec son pot et lorgna la copie du portrait robot posé dessus. Fausse barbe, faux sourcils, ils étaient énormes, fausses lunettes, des yeux d'un noir abyssal. L'inspectrice trouvait le résultat étrange, pas naturel du tout. Encore une belle merde. En début d'après-midi, sa quête d'informations concernant Hélène Lemaire se révéla plus fructueuse. D'après les collègues de Rouen, leur victime aux parties intimes brûlées était née en 1961 dans un bled du nom de Salanches. Florence avait alors joint un employé de la mairie en question. Des actes de décès stipulaient que les parents de la jeune femme habitaient toujours la commune lorsqu'une avalanche les avait engloutis en 1983. Donc, Hélène y avait grandi et probablement suivi sa scolarité. Il n'existait qu'un seul collège dans la ville, fermé à cause des fêtes, mais la policière avait pu récupérer, toujours auprès de l'employé, le numéro de la principale actuelle, Magali Forestier. Elle avait appelé cette dernière et laissé un message demandant à ce qu'on la recontacte dès que possible. « On va s'en sortir », se répétait-elle nerveusement à intervalles réguliers. « On va s'en sortir ». Peu après, Amandier s'étira avec mollesse, fourra un portrait robot dans sa veste et adressa un signe à Charcot tout en quittant sa chaise. « Amène-toi, je viens d'avoir l'oreille au téléphone, il a du neuf sur la bande du répondeur de Merlin. » Ils descendirent au rythme du vieux flic, lentement. Une fois devant le 36, celui-ci alluma une cigarette et s'assit 2 minutes sur le parapet du quai. La météo était idéale, un froid sec avec un ciel dégagé. Le soleil leur réchauffait la peau et l'inspecteur s'en délecta quelques instants.
« Faut pas courir tout le temps, petit. Faut savoir profiter aussi.
Le méticuleux nous a baisés et bien profond, alors on n'est plus aux pièces. Franck trépignait d'impatience, le col mouton de son blouson relevé, les mains dans les poches. Il n'avait qu'une hâte, rentrer chez lui, en espérant y trouver un message du chef du SMUR avec les adresses qu'il attendait. Ce genre d'échec, ça arrive, poursuivit Serge en fixant une péniche qui fendait les flots. T'es certain de tenir ton gars et pfft, il glisse entre les doigts. Ensuite, t'en entends plus jamais parler. Au bout d'un moment, il se redressa et tapa sur l'épaule de Charcot. Je sais que t'y croyais à ton histoire d'urgentiste, et c'est bien d'y croire, ça prouve que t'es un bon flic. Mais malheureusement, on ne gagne pas à tous les coups. Ça s'appelle les fantômes, mais pas des fantômes qui disparaissent comme David Merlin. Ceux-là, ils sont différents. C'est le contraire, ils t'encombrent en permanence la tête. Ils te hantent et tu dois te les coltiner. T'en as beaucoup, toi, des fantômes? De quoi remplir un stade de foot? Désormais silencieux, ils se mirent en route le long du quai de l'horloge. Franck resta pensif. Peut-être parviendrait-il à soulager son collègue d'un de ses fantômes. Et peut-être que ça l'apaiserait lui aussi, qu'il songerait un peu moins à Brigitte. Suzanne avait raison. Il finirait probablement par se pardonner de ne jamais avoir arrêté son meurtrier s'il mettait derrière les barreaux le monstre qui avait tué 3 jeunes femmes innocentes.